Y'a des hauts, des bas et des hauts, de drôles de débats et de la démago.
Bonjour à tous, c'est l'émission mensuelle Urgence.
Des coups de pression, des coups dans le dos, des coups de bluff et des hauts, des hauts.
L'émission qui a pour vocation d'informer, de mobiliser, d'alerter, de débattre d'un sujet de société.
Y'a des hauts, des hauts. Et les cadres sociaux, il y a la France moyenne, de Brest à Cayenne, il y a les sans-papiers, les sans sous les sans sur les sans pitié, il y a les femmes seules et les prisonniers, il y a les infirmières et les gars du chantier, il y a les ouf, les ouaves, les toqués toqués, malvoyants, clairvoyants et les nains du clergé. Quand tout ça se passe ici bas, où il y a des hauts, des bas et des hauts, de drôles de débats et de la démago.
Comme chaque mois, nous sommes très heureux de vous retrouver. Et une fois de plus, nous allons traiter d'un sujet de société. Je pense que c'est le rôle de la Ligue des droits de l'homme, non pas d'apporter des solutions, mais de faire réfléchir. Réfléchissons ensemble à des sujets de société qui nous semblent fondamentaux.
Urgence, émission animée et proposée par la section de la Ligue des droits de l'homme, Villefranche et les Casvilles.
Bonjour, c'est Urgence, l'émission mensuelle de la Ligue des droits de l'homme. Urgence pour les droits, urgence pour les libertés. Vous pouvez également écouter cette émission sur Radio Larzac. Le 18 janvier dernier, 11 élèves de seconde du lycée Raymond Savignac présentaient leur plaidoirie pour les droits de l'homme au théâtre municipal. Et nous vous proposons aujourd'hui d'écouter la première partie de ces plaidoiries. Vous allez entendre 6 d'entre eux plaider pour les droits de l'homme. Ces plaidoiries ont été préparées dans le cadre de l'option littérature et société, sous la houlette de leur professeur Isabelle Escudier, Benoît Vincent et Vanessa Despeyrou. Nous les remercions chaleureusement pour leur investissement éducatif au service des droits de l'homme. Ils n'ont pas attendu les instructions des pouvoirs publics pour intéresser les élèves aux questions des sociétés, les ouvrir à l'actualité et les faire réfléchir aux valeurs communes de notre société. En préambule, je reprendrai quelques mots de Guy Cabrit, président de la section locale de la Ligue des droits de l'homme Villefranche de Casville. Il présentait la soirée plaidoirie en disant « Malgré cette terrible année 2015, nous ne devons pas baisser les bras, bien au contraire. Nous devons réagir pour défendre et faire vivre nos valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité, qui concernent chacun d'entre nous. » Elles ne doivent pas rester au stade des incantations, mais elles doivent irriguer l'action publique et aussi et surtout notre vie quotidienne. Nous devons rester unis et fiers de ce que nous sommes et porter ensemble ces valeurs qui sont le socle de notre vivre ensemble. Bravo à ces jeunes qui savent porter ces valeurs et défendre les droits de l'homme. Et comme le disait Madame Morin, proviseur, à la fin des plaidoiries, vous avez porté haut les valeurs de la République. Alors maintenant, vous allez pouvoir écouter Anaïs, Lucie, Ophélie, César et Ninon qui plaident contre les discriminations, contre le racisme, contre le harcèlement, contre le sort réservé aux ouvriers immigrés, au Qatar, etc. Et nous allons commencer par Christophe, qui lui n'a pas réalisé une plaidoirie, mais qui a participé au concours d'éloquence et qui a fini troisième à Toulouse à la finale de ce concours. Donc, nous vous laissons avec Christophe, qui va vous parler du bonheur. Le bonheur était le thème du concours d'éloquence cette année, le concours d'éloquence qui est parrainé par et organisé par la Dépêche du Midi. Les plaidoiries, première partie, après la musique des Kids United.
On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir.
On écrit sur les murs à l'encre de nos veines,
on dessine tout ce que l'on voudrait dire.
Partout autour de nous, il y a des signes d'espoir dans les regards.
Donnons leur écrit, car dans la nuit tout s'efface.
Mélangeons demain dans un refrain nos visages
métissages. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime.
Ce que l'on voudrait dire,
on l'écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime.
Bonheur, droit et devoir. Voilà le thème du concours d'éloquence de cette année. Christophe défend son idée du bonheur renforcée par les moments tragiques de novembre. Écoutons Christophe défendre son texte avec conviction.
Il s'appelait Nicolas, Elif, Sven, Micheli, Keredin. Ils étaient étudiants, journalistes, policiers, dessinateurs, retraités, âgés de 17 à 54 ans. Chiliens, français, algériens, portugais. En ce jour funeste du 13 novembre 2015, ils croquaient la vie à pleines dents, à la terrasse de la Belle Époque, ou assistaient à un concert au Bataclan. Ils vivaient, quoi. C'est le droit au bonheur qui a été assassiné ce jour-là. Mais au fait, c'est quoi le bonheur? Le petit Robert n'est fait ni le bonheur comme de la chance. Étonnant, non? Du coup, oui. Toutes ces personnes étaient là, au mauvais endroit, au mauvais moment. Le même Robert évoque ensuite un état d'extase, d'euphorie, de félicité. Droit au bonheur, comme c'est étrange. Mais si tout le monde a le droit au bonheur, de quoi dépend-il? De nous? De notre lieu de naissance, de notre ligne de vie, de nos origines sociales, culturelles? Avons-nous tous le même idéal de bonheur? Est-il le fruit du hasard, d'une conquête? Aurais-je la même idée du bonheur selon que je nais en Afrique subsaharienne ou en France, dans une famille aisée ou modeste? s'inscrit-il dans une attitude égoïste, altruiste? Si chacun ne recherchait que son propre bonheur, serait-il possible à obtenir ou générerait-il des conflits? Montesquieu imagine dans les lettres persanes l'histoire d'un petit peuple, les troglodytes. Soucieux d'être libres, ils décidèrent un jour de renverser le roi, puis le gouvernement mis en place. Ainsi, chacun veillerait uniquement à ses propres intérêts. Par exemple, chacun se dit « Je ne cultiverai mes terres que pour me nourrir. » Certaines terres du royaume étaient arides, d'autres plus arrosées. Cette année-là sévit une grande sécheresse et les habitants des terres arides périrent de faim à cause de l'égoïsme de leurs voisins qui refusèrent de les aider. L'année suivante fut au contraire pluvieuse, ce qui combla les habitants des montagnes, mais provoqua une grande famine chez leurs voisins. Finalement, ce royaume prospère après maintes désolations, devint une terre de mort. Cette fable nous montre que le manque d'entraide entre les hommes peut conduire à leur perte, qu'il n'y ait de bonheur possible qu'avec une organisation sociale et de la solidarité entre les hommes. L'injustice, la loi du plus fort, l'égoïsme entraînent nécessairement la perte de l'individu et de l'homme. Le bonheur nous impose donc aussi des devoirs. Il est un devoir. En tout cas, il était déjà inscrit dans le préambule de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. L'objectif affiché est bien le bonheur de tous. Mais effectivement, chacun se doit d'en être l'artisan. Chacun doit apporter sa petite pierre à l'édifice. Pas facile à atteindre, comme le disait ce cher philosophe Alain. C'est un combat contre beaucoup d'événements et contre beaucoup d'hommes. Il se peut que l'on y soit vaincu. Mais c'est un devoir de ne point se dire vaincu, savoir lutter de toutes ses forces. Aujourd'hui, en 2016, l'homme reste malheureusement son propre ennemi. Lorsqu'il souille la nature, porte des armes, se bat contre ses frères, impose sa religion, ses idées. Nous nous appelons Cindy, Corinne, Christophe, Carole. Nous sommes en lycée professionnel. Demain, nous serons poètes, charcutiers, musiciens, secrétaires. Mais plus que tout, nous serons citoyens. Nous défendrons l'idéal de paix, de tolérance. Nous nous efforcerons de lutter contre la violence, les discriminations. Nous voulons croquer la vie à pleines dents, à la terrasse du bonheur. Et pour finir, le bonheur, ce n'est pas une timbale qu'on décroche. C'est surtout une aptitude, je crois. Merci.
Personne n'en parle. Voilà comment Anaïs a choisi le thème de sa plaidoirie, le harcèlement de rue. Elle le dénonce et le définit comme des comportements intimidants, menaçants, irrespectueux ou autres. Écoutons maintenant Anaïs avec sa plaidoirie intitulée « La drague est une main tendue, le harcèlement est une main qui s'abat ».
Mademoiselle, vous êtes charmante. C'est pour moi cette jupe ? Mesdames, messieurs, avez-vous déjà entendu ces phrases ? Messieurs, quant à vous, savez-vous que chaque femme de votre entourage a déjà été victime de harcèlement de rue, au moins une fois dans sa vie, seulement dans les transports en commun ? Ces phrases ou réflexions qui sont lourdes et qui virent souvent à une insistance de son agresseur entraîne presque toujours des insultes ou des réflexions qui détériorent l'image de la femme. Le harcèlement de rue peut être défini comme des comportements intimidants, irrespectueux, humiliants ou même menaçants dans les lieux publics. Ce sont tous les sifflements, les commentaires sexistes, les interpellations et même voire les attouchements. Toutes ces actions portent un nom. Mesdames, messieurs, ces réflexions ne sont donc pas de l'humour, ce ne sont pas des compliments et certainement pas de la drague. Car, à cause du harcèlement de rue, combien de femmes ont baissé la tête devant leur agresseur ? Combien de femmes ont dû changer de trottoir pour fuir ce genre de situation ? Combien de femmes se sont interdites de porter des vêtements féminins ? le risque d'être harcelée s'est amplifié. Car, pendant que je vous parle, dites-moi combien de femmes se font encore harceler. Et dites-moi combien de témoins n'osent pas venir en aide aux victimes. Toutes ces femmes se sentent, jour après jour, de moins en moins en sécurité. Elles ont peur des gens et du monde qui leur entoure, ce qui est bien dommage. Pourtant, la Déclaration universelle des droits de l'homme indique, dans son article 1er, que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Mesdames, Messieurs, laissez-moi à présent vous raconter l'histoire d'une des nombreuses jeunes filles victimes de harcèlement de rue. Afin de conserver son identité, je l'appellerai Sarah. Sarah, donc, a été victime plusieurs fois d'atteinte par le harcèlement de rue. La première fois, elle sort tout juste de sa journée de cours et comme la plupart des lycéens, elle rentre chez elle seule, à pied. C'est sur le chemin du retour que deux jeunes hommes l'interpellent. Sarah a peur. Dans son éducation, on lui a toujours appris à se méfier des inconnus. Tout d'un coup, un des deux hommes commence à lui parler et devient de plus en plus insistant avec elle. Il lui dit qu'elle est belle et qu'il veut son numéro. À sa place, comment aurions-nous réagi? Nous aurions refusé sans doute. C'est ce que Sarah fait, une réaction totalement justifiée, mais celle-ci des plus fortement au jeune homme. Il réitère donc sa demande dans l'espoir qu'elle change d'avis. Mais Sarah ne change pas d'opinion. Le jeune homme comprit vite que Sarah n'était pas réceptive à ses avances. Il commence donc à l'insulter. C'est naturellement choqué qu'elle décide de reprendre sa route afin de se rendre au plus vite chez elle. Mais dites-moi, expliquez-moi, vous tous, assis dans cette salle, pourquoi cet homme a changé de comportement si soudainement? Pourquoi cet homme est passé des compliments à des insultes? Vous me diriez que c'est certainement pour montrer à son ami qu'il accompagnait, que nulle femme, et encore moins une jeune lycéenne, ne pouvait lui dire non. Elle nous a confié que ce genre de situation se reproduit souvent, sans doute trop souvent, sans qu'elle ne comprenne vraiment ce qui lui arrivait. Mais elle n'avait encore rien vécu, car toutes ces situations se sont aggravées quand il a fallu qu'elle parte à Paris. Alors qu'elle avait définitivement banni l'idée de porter des jupes ou des robes afin de ne pas attirer l'attention, elle subissait tout de même des commentaires et des réflexions quotidiens auxquels elle s'était habituée. Mais un matin, alors qu'elle était habillée d'un jean basique et d'un simple sweat, Sarah devait prendre le métro pour se rendre à un rendez-vous. C'est un homme dont elle n'a jamais vu le visage qui la prend par les hanches et commence à se frotter contre elle. Pétrifiée, horrifiée, répugnée. Son seul réflexe est de lui donner des coups de coude. Des coups de coude, dites-moi. Un réflexe futile face aux attentions de cet homme. Et comme, dans la plupart des scènes de harcèlement de rue, personne n'osait venir en aide à Sarah. C'est malgré ces longues minutes de débat qu'elle décida de sortir de la rame un arrêt plus tôt, afin de pouvoir lui échapper. Elle était salie et se sentait violée. Mais elle comprit vite que le problème, ce n'était pas qu'elle porte une jupe, ce n'était pas sa façon de vivre le problème, c'était bien lui. Ses réflexions, sifflements, commentaires, ou même cet attouchement qu'elle a subi, ont eu un impact sur son quotidien. Elle s'interdit de porter des jupes, des robes ou autres vêtements féminins. Dorénavant, elle ne traîne plus seule ou avec ses amis, en ville ou autre espace public. Sarah a perdu jour après jour son goût à la vie et est passée de jeune femme extravertie qui aimait faire de nouvelles rencontres à une jeune femme renfermée et qui a peur du monde extérieur. Mais, selon l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, tout individu n'a-t-il pas droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne? À la sûreté de sa personne? Pensez-vous, mesdames, messieurs, que Sarah a bénéficié de cette sûreté? Pour combattre le harcèlement de rue, il existe de nombreuses associations, comme Stop Harcèlement de Rue. Cette association veut réduire le harcèlement de rue en mettant en place des actions, affiches, ou en distribuant des tracts, afin de vivre l'expérience d'une zone sans harcèlement de rue. Ces actions ont pour but de rendre visible le problème et de montrer comment le combattre, en tant que victime ou bien témoin. Toutes ces actions ont également pour but de permettre aux femmes victimes de harcèlement de rue de relever la tête. Nous pouvons tous combattre, voire vaincre le harcèlement de rue. Comment ? En stoppant un homme qui cherche à vouloir aller trop loin avec une femme qui ne le souhaite pas. En réagissant, si l'on voit ou subit quelconque geste déplacé, et en parlant avec sa famille ou ses amis. Mesdames, messieurs, l'essentiel est invisible pour les yeux. C'est donc pour ça que je vous demande d'en parler, de dénoncer ces hommes qui font perdre la confiance, la joie de vivre et l'estime de nos femmes. Car le harcèlement de rue, dont le harcèlement sexuel, est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. La valeur d'un homme se reflète à l'estime qu'il porte aux femmes. Pour terminer, mesdames, messieurs, je vais vous laisser sur ces quelques mots. La drague est une main tendue, le harcèlement de rue est une main qui s'abat.
Le racisme est un ensemble de préjugés, de théories qui établit des différences entre les hommes. Ces différences peuvent parfois devenir meurtrières. Lucie a choisi « L'être humain dans son plaidoyer, l'humanité n'a aucune couleur ».
Mesdames, messieurs, je souhaiterais vous parler d'un phénomène encore trop présent au XXIe siècle. Il s'agit du racisme. Le racisme est défini comme un ensemble de préjugés, de théories, qui établissent des différences entre les personnes. C'est une attitude hostile envers un genre de personnes, généralement ressentie comme inférieure. Le racisme de couleur, lui, est un comportement qui vise à dévaloriser une personne. Il utilise une caractéristique physique, la couleur de peau, comme critère principal de discrimination. L'émergence du racisme se situe au XVe siècle lors des grandes découvertes. Le terme « race » apparaîtra au XVIe siècle et ces découvertes auront des conséquences terribles sur l'histoire humaine. Dans l'Antiquité, l'esclavage fut la première grande pratique raciste envers des peuples considérés comme inférieurs. Jusqu'au XIXe siècle, la France, le Brésil et certains pays arabes pratiqueront l'esclavage. L'une des périodes les plus sombres de l'humanité a lieu dans les années 1930 jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en Allemagne, lors de l'arrivée au pouvoir des nazis. Durant cette période, les Juifs étaient considérés comme une race inférieure et 6 millions de personnes moururent exterminées. Un autre grand épisode raciste a eu lieu aux États-Unis, la ségrégation américaine, 1875-1967. Durant cette période, les Blancs et les Noirs ne se mélangeaient pas et n'avaient pas les mêmes droits. La France, notre France, pratiquera l'esclavage pendant plusieurs siècles pour prospérer leur colonie. L'homme noir était jugé inférieur à l'homme blanc et 15 millions de personnes furent arrachées à leur pays et utilisées comme des animaux. C'est le plus durable des crimes contre l'humanité. Il faudra attendre 1848 avec l'abolition de l'esclavage pour que tout cela cesse. Le 21 mai 2001, la France reconnaîtra enfin que l'esclavage et le racisme constituent un crime contre l'humanité. Les hommes ont été depuis longtemps sensibles aux différences visibles entre eux, notamment en tenant compte de la couleur de peau. Mais aujourd'hui, grâce à la science et à ses progrès, nous pouvons prouver qu'il existe une seule race humaine, nommée Homo sapiens, et qu'il ne peut être divisé en races tant il y a de variétés humaines. La génétique a aussi prouvé que les différences entre les hommes blancs et les hommes noirs étaient très faibles et que seule la morphologie pouvait légèrement changer. Ainsi, n'importe quel être humain peut avoir un gène identique avec n'importe quelle personne. Ces gènes vont bien plus loin que la couleur de peau. Ils déterminent beaucoup d'autres choses que chaque être humain partage. Aujourd'hui, Nous vivons dans un pays dans lequel nous sommes censés être libres et égaux en droit. Alors pourquoi le racisme existe-t-il en France ? Pourquoi le racisme continue-t-il d'exister même après l'histoire de la France ? Pourquoi tant de gens pensent encore que les personnes de pigmentation noire sont inférieures aux blanches ? Certes, la couleur de peau est une différence visible qui apparaît aux yeux de tous. Mais nous sommes tous constitués de la même manière. Nous avons tous hérité des mêmes membres, des mêmes organes, du même sang. En 2016, la science est assez développée pour prouver que nous sommes tous issus de la même origine. Qu'un homme soit de couleur blanche, noire ou même bleue, qu'il soit musulman, juif ou catholique, il est libre et égaux en droit. Il est interdit de juger un homme, une femme ou même un enfant sur ses croyances, sa religion, son ethnie et ses caractères physiques. L'abolition de l'esclavage, pourtant si difficile à obtenir, n'a rien changé. Le racisme est encore bien trop présent dans notre quotidien. D'ailleurs, la Déclaration universelle des droits de l'homme ne stipule-t-elle pas dans son article 2, alinéa 2, que chacun peut se prévaloir de toutes les libertés et de tous les droits proclamés dans la présente déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de sexe, de couleur, de langue, d'opinion politique ou de toute autre opinion ? D'origine nationale ou sociale, de naissance ou de fortune, ou de toute autre situation. Pour illustrer mes propos, je citerai deux exemples. En 2013, dans l'Orne, Paul, un enfant de 10 ans, est victime d'injures et de violences racistes dans son école. Il se fait frapper et insulter par ses camarades, et aucun adulte ne s'oppose à ses actes. Ce calvaire va durer 3 mois avant que l'enfant décide d'en parler à ses parents. La famille est choquée, déposera plusieurs plaintes et décidera finalement de changer l'enfant, de déscolariser l'enfant et de le changer d'établissement. Ces actes ne devraient jamais avoir lieu, car d'après l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'éducation doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux. Alors pourquoi certaines personnes sont encore assez stupides pour juger une personne de couleur ? Et qui plus est ici, un enfant ? Le 23 juin 2015, à Disneyland, Samara, une fillette aborigène, va vivre une expérience bouleversante pour son âge. Elle se trouvait dans la queue d'une nouvelle attraction avec sa mère et elle arborait la belle robe de la Reine des Neiges, Elsa. Elle patientait quand tout à coup une mère de famille la regarde, se tourne, et lui dit « Je ne sais pas pourquoi tu es habillée comme ça. Elsa, elle, n'est pas noire. » Cette remarque insultante va être suivie par un commentaire d'une de ses filles. « Tu es noire. Et être noire, c'est moche. » Suite à cela, Samara va même laisser entendre qu'elle aimerait se faire gommer la peau. Aucun être, qu'il soit gros, mince, grand ou petit, de couleur de peau claire ou foncée, ne doit avoir honte de ce qu'il est. Je m'en référerai à l'article 2, alinéa 2, de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous devons apprendre à vivre avec nos différences et arrêter de juger l'autre face à ses aspects physiques. Aucun être humain ne doit se sentir inférieur ou différent aux autres. Au contraire, nous devons nous enrichir de toutes les différences de l'humanité. Est-ce que les yeux bridés, les cheveux raides, la taille et la peau jaune d'un Asiatique font de lui un être différent ? Non. Est-ce que le postérieur cambré, les lèvres charnues et la peau foncée d'un noir font de lui un être différent ? Non plus. Les aspects physiques qui caractérisent les différentes populations ne sont que les résultats d'adaptation de chaque groupe d'individus à l'environnement qui l'entoure. Chaque personne doit être fière de sa couleur et de son physique. Et comme nous l'a dit Saint-Exupéry, l'essentiel est invisible pour les yeux. Le racisme est un virus, le reflet de la bêtise humaine, une maladie contagieuse. Face à des situations affreuses comme les violences ou les injures racistes, nous restons placides. Nous restons calmes face à ces actes et à leurs conséquences. On s'habitue. On peut de temps en temps dire que ces injustices nous gênent, mais au fond, pas tant que ça, puisque rien ne change. Trop de personnes de couleur se font encore agresser, et ces actes ne sont pas anodins pour les victimes. Que ce soit un homme, une femme ou un enfant, toutes les personnes souffrant de discrimination ont un point commun. Elles sont profondément touchées dans leur estime de soi et n'osent pas toujours en parler. Être victime de racisme, comme tout autre acte de violence physique ou morale, peut avoir des conséquences terribles sur l'humain. Comme la perte de confiance en soi, la méfiance envers les autres, et parfois même des sentiments de haine et de violence contre soi ou contre les autres. Les personnes de couleur noire sont celles qui sont le plus touchées par cette discrimination, et ceux qui le voudront ne parviendront jamais à gommer leurs différences. Aujourd'hui, le racisme existe bel et bien partout dans le monde. Et ce n'est pas parce qu'il y a effectivement des différences entre les personnes qu'il faut confondre différence et inégalité. Le racisme viole le droit fondamental d'égalité des êtres humains et doit être combattu. Car tout être humain a droit au respect, quelle que soit sa culture, son ethnie ou sa religion. Nous devons agir contre ces actes et défendre ces personnes. Nous devons les aider et nous enrichir de leurs différences. Ne vous habituez pas au racisme, à sa haine et à sa violence. Il n'y a qu'une seule voix, la révolte. Levons-nous pour crier notre révolte devant le racisme. Que tous nos cris d'amour, d'égalité et de tolérance soient assez forts pour couvrir les paroles de haine et de xénophobie. L'humanité n'a aucune couleur.
Le harcèlement scolaire se définit par une violence répétée, qui peut être verbale, physique ou psychologique. En 2015, près de 700 600 adolescents et enfants ont été harcelés dans leur école. Ophélie nous raconte le quotidien de ces personnes. Au travers de sa plaidoirie, nous sommes tous Pauline.
Caïdage. Harcèlement scolaire, bizutage, brimade. Ces termes, qui de nos jours sont de plus en plus interprétés dans nos établissements scolaires. Vous vous demandez sûrement pourquoi je dis cela. Eh bien, car pour une simple différence physique, mentale ou psychologique, un peu trop menu, trop fin, avec des boutons, des lunettes, blonds, bruns, noirs, blancs, handicapés ou valides, les esprits débordent de critiques. Tout cela se passe à l'école, notamment dans la cour de récréation. Or, si vous vous souvenez que ce lieu est un endroit de détente, il est particulièrement dangereux relationnellement et vous en avez évidemment oublié les codes. Vos angoisses quant aux attitudes relationnelles de vos enfants vous poussent pourtant à vous mettre maladroitement parfois entre eux, à ce monde qui leur est propre et ainsi de transformer de simples difficultés relationnelles en problèmes récurrents. Pour mieux vous expliquer, j'ai choisi un exemple précis. Pauline, une adolescente de 11 ans, victime de harcèlement scolaire. Tu es moche et tu le resteras. Tout a commencé avec des insultes au quotidien, puis, au fil des années, jusqu'au jour où elle eut l'âge d'avoir un réseau social tel que Facebook, un cyberharcèlement se rajoute et des photos trafiquées et imprimées de mots haineux ont fait le tour de son établissement. Un an plus tard, lors de son année de quatrième, elle subit sa première agression physique. À midi, des garçons lui demandent de danser sur une table. Elle refuse et commence à se faire frapper. Des coups de poing et de pied, dans le dos, les bras, les jambes fusent de toutes parts et ses cheveux sont arrachés. Tout cela, un surveillant est intervenu à la fin de l'agression, disant doucement « Calmez-vous ». Trouvez-vous cela normal que cette jeune fille n'ait absolument aucun soutien ? Suite à tous ces événements, elle se laisse tomber dans une hyperphagie boulimique sévère, ce qui ne fit qu'empirer les dégâts. Tout cela change aussi son comportement scolaire. Chute de notes, absence multipliée. Ces années collège ont été un véritable enfer pour cette dernière. L'entrée du lycée. Elle pensait que tout cela était terminé, mais malheureusement non. Ce désastre l'a conduit à vouloir se suicider, car pour elle, la mort était le seul échappatoire possible pour apaiser ses souffrances. Elle tente de se défenestrer 3 fois. L'envie de mourir lui dévore l'esprit et le corps. La fin de l'année arrive, et les résultats des passages de la classe au-dessus aussi. Le redoublement. Un mot qui pour elle était synonyme de miracle. Elle se dit être enfin libérée de toutes ces mauvaises personnes. Et c'est aussi à ce moment-là qu'elle décide de tout dire à sa mère, qui jusque-là ne se doutait de rien. Les années passent une à une, puis enfin arrive l'université. Étant majeure, elle prit la décision de changer d'identité. Depuis, elle s'est reconstruite et mène à présent une vie normale. Il lui aura fallu du temps pour digérer ces 8 années de souffrance extrêmement longue de son existence et reprendre petit à petit confiance en elle. À présent, elle est suivie au quotidien par un psychologue. Lors d'une interview, elle nous témoigne brièvement son expérience. « Je ne pensais pas m'exprimer un jour à ce sujet, mais la mort de Marion Fraisse a remis cette idée en cause. Malheureusement, elle ne pourra plus parler. Mais nous, anciennes victimes actuelles, nous devons dépasser notre peur. Car comme le viol ou divers abus, la honte ne doit plus être de notre côté, mais du leur. Car ce sont eux qui doivent être réprimés de leurs actes et de leurs paroles. » Marie Lopez, alias Enjoy Phoenix, youtubeuse sur des tutos beauté, a elle aussi été victime de harcèlement scolaire au lycée. Cette jeune fille de 21 ans, admirée pour ses talents, a décidé dans une vidéo de parler de son cas. Elle défend cette cause, donne des conseils, réconforte et encourage ses fans qui peuvent eux aussi être victimes de harcèlement. Le jeudi 5 novembre 2015, lors d'une émission télé Toute une histoire, elle y dévoile ses projets pour lutter contre le harcèlement scolaire, créer une campagne dans les établissements afin de prêter écoute aux élèves concernés. La ministre de l'Éducation nationale a répondu présente à l'appel de l'émission et s'exprime, répondant aux questions des internautes sur le harcèlement. Un numéro vert a été créé, le 30-20. Mais aussi, une toute première journée de lutte nationale a été mise en place, le 5 novembre. Mais la loi, que nous dit-elle à ce sujet? Eh bien, elle nous dit que le délit d'harcèlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Le caïdage est un manque de respect, mais nous avons des droits. Le droit d'avoir une opinion qui doit être respectée pour tout ce qui nous concerne directement. D'apprendre le respect des autres, de nos parents, de notre pays. Savoir vivre dans un esprit de paix, d'égalité et d'amitié. Être protégé contre toute forme de violence. Et si un enfant ne respecte pas la loi, la justice intervient en tenant compte de son âge, en respectant ses droits et en lui apportant une aide. Vivre librement selon nos idées du bien-être. Protéger notre vie privée. Personne n'a le droit d'intervenir sans raison légale à salir notre bonheur. Nous avons le droit d'être protégés contre tous les mauvais traitements, comme la violence, l'abandon, la négligence, l'exploitation, la violence sexuelle ou d'autres peines cruelles et dégradantes. Mais malheureusement, tous ces droits fondamentaux ne sont pas respectés. Et c'est encore aujourd'hui 1 enfant sur 10 qui est victime de caïdage. 1,3 million d'enfants dans le monde. Et 50% des harceleurs deviennent des délinquants. Comme certains le savent, le harcèlement scolaire peut être grave, très grave. Comme Pauline, ce désastre peut pousser à des envies de mourir pour apaiser ses souffrances, oublier. Mais le silence n'est pas solution, et la mort non plus. Aujourd'hui, c'est encore 61% des enfants qui déclarent avoir déjà pensé se suicider, et 22% qui n'en parlent pas. Le harcèlement, si on n'en parle pas, ça ne s'arrête pas. Parents, faites attention au comportement de vos enfants et incitez-les à parler. Professeurs, mettez des limites à vos élèves, ne fermez pas les yeux et faites en sorte de sanctionner les harceleurs à leur juste valeur. Victimes, parlez jusqu'à ce que quelqu'un vous entende, vous comprenne, vous croie et vous aide. La formule menant au succès n'existe pas, mais je peux vous donner celle de l'échec qui est d'essayer de plaire à tout le monde. Non, ce n'est pas dans votre tête comme certains le prétendent, c'est la réalité et il est de votre droit de vous exprimer. L'intimidation laisse de profondes cicatrices sur l'estime de soi. Alors avant qu'il n'en soit trop tard, avant qu'il n'en garde des traces à vie, agissons, luttons contre cette justice du caïdage. Nous sommes tous Pauline.
Le Qatar, vous connaissez ? Ce petit émirat du Moyen-Orient, situé dans le golfe Persique, futur pays organisateur du mondial du foot de 2022, pays en pleine croissance économique où les échanges commerciaux ne font qu'augmenter. Dans ce pays de cartes postales, César dénonce la place importante et le fonctionnement de l'esclavage moderne dans sa plaidoirie intitulée « Ici, c'est Qatar ».
Mesdames, messieurs, bonjour. Je suis ici pour vous parler de Ranjit, un Sri Lankais venu chercher du travail au Qatar. À son arrivée, le 21 décembre 2014, son employeur lui fournit logement. Sa résidence est sale. Ne comporte pas de salle de bain. Il n'a ni l'eau, ni l'électricité. Et ne mange pas à sa faim. Pourtant, cela fait 5 mois qu'il est embauché. 5 mois qu'il ne touche pas sa paye. Il ne peut pas se plaindre, car il a remis son... car il n'a pas de certificat d'embauche. Il a remis, comme l'on le stipule, ses papiers d'identité. Ranjit est donc privé du droit de circuler ou de changer d'emploi. Pourtant, la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans son article 13, prévoit que tout homme a droit de quitter tout pays, y compris le sien. Et dans l'article 23, quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante, lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tout autre moyen de protection sociale. Ces lois devraient permettre une meilleure vie que celle de Ranjit. Vous connaissez le Qatar ? Son nom apparaît sur les maillots du FC de Barcelone, du PSG. Il est le futur organisateur du Mondial de 2022. Ce pays avec lequel les échanges commerciaux de la France ont augmenté de 24% pour la seule année de 2014. Ce pays auquel nous venons de vendre 23 avions Rafale. Ce pays qui, il y a 2 ans, avait fait la promesse d'engager 100 inspecteurs du travail. Je vous informe qu'ils n'ont rien fait et que beaucoup n'ont pas la chance d'avoir un foyer aussi luxueux que Ranjit. Pourtant, le Qatar est un pays riche, très riche même, grâce à ses gisements de gaz et de pétrole. Ne peut-il rien faire pour ses salariés ? Après avoir été un protectorat britannique, le Qatar est une monarchie autoritaire. Son dirigeant est l'émir Ahmad bin Khalifa Al Thani, dont la famille est au pouvoir depuis la déclaration d'indépendance en 1971. D'après Qatarinfo.net, il y a seulement 300 000 Qataris, en général très aisés, sur 2 millions d'habitants. Quels sont le sort de ces 1 700 000 habitants ? Quels sont leurs droits ? Dans ce reportage de France 24, les filières du Qatar, Mahato, jeune employé, ose témoigner à visage découvert en espérant faire changer les choses. Il dit être venu pour un travail de vigie et se retrouve à faire la plonge. Il n'a pas été payé depuis son arrivée. À chaque fois qu'il demande ses papiers, on lui dit qu'il va les récupérer, sans jamais les lui rendre. Il vit dans une chambre avec une dizaine de colocataires, piégés eux aussi. Ne s'agit-il pas là d'une situation d'esclavage ? Mais qu'est-ce que l'esclavage ? L'esclavage moderne, c'est le travail forcé. La victime est privée d'identité et doit travailler. C'est une réalité au Qatar. Les papiers sont confisqués, le retour ou déplacement au pays impossible et le travail n'est pas justement rémunéré. Sans la complicité de l'État, ces pratiques inhumaines ne seraient pas possibles. Comment un pays aussi puissant que le Qatar peut-il tomber aussi bas ? Les conditions de vie des employés immigrés sont clairement dénoncées dans ce reportage. Leurs appartements n'ont pas de climatisation dans un pays chaud, désertique, et sont infestés de cafards. Certains s'endorment et ne se réveillent jamais. L'année précédente, plus de 500 employés népalais sont décédés au Qatar, officiellement d'une crise cardiaque. En réalité, selon certains médecins indépendants, ils seraient morts d'un manque d'hygiène, dissimulé par leur patron pour éviter de devoir dédommager les familles. Ces comportements sont cautionnés par l'État, qui n'intervient pas. Les Qataris sont-ils pauvres au point de devoir mentir aux familles des défunts ? Cela ne leur suffit-il pas de tuer des êtres humains à la tâche ? Et pourquoi cet esclavage n'a-t-il jamais été pointé du doigt ? D'après France 24, plusieurs journalistes auraient été arrêtés en essayant de dénoncer les conditions de vie des employés immigrés. Il s'agit clairement d'une violation de l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui stipule « Tout individu a droit à, sa liberté d'opinion », ce qui implique de ne pas être inquiété pour son opinion, de rechercher, répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. L'État a quand même pris quelques initiatives pour repérer les mauvais patrons, en faisant systématiquement témoigner quelques employés de chaque entreprise. Mais beaucoup d'esclavagistes déjouent ce contrôle en engageant de faux employés. Sous la pression médiatique et diplomatique, l'État qatari se donne bonne conscience et bonne image par quelques réformettes. Mais les lois et les mentalités n'évoluent pas. Enfin, le Qatar n'est pas signataire de la Convention des Nations Unies sur la protection des travailleurs migrants, résolution entrée en vigueur en 2003. Certes, seuls 44 pays ont signé et les États dans lesquels la protection de cette population n'est pas encore assurée sont trop nombreux. Mais, du fait de sa puissance financière et de sa place auprès des grandes démocraties, l'État qatari devrait s'engager à faire plus. Il ne devrait en exiger plus. Déjà, en 1864, Abraham Lincoln écrivait « Si l'esclavage n'est pas mauvais, rien n'est mauvais. » Lorsqu'on s'habitue à voir les autres porter les chaînes de l'esclavage, c'est qu'il accepte lui-même un jour de les porter. Ainsi, pourrions-nous moins honteusement, dans ces stades de football construits par Mahato et Ranjit, crier « Ici, c'est Qatar ».
Je suis seule sur le trottoir et j'ai froid. Voilà comment commence la plaidoirie de Ninon. Comme vous vous en doutez, elle parlera des sans-domicile fixe, de ceux qu'on voit tous les jours sans y prêter attention. Sa plaidoirie intitulée « Je suis seule et j'ai froid ».
Je suis seule et j'ai froid. C'est l'heure où la ville commence à s'agiter. Bientôt, la rue sera pleine de gens pressés qui partent travailler. Et moi, je resterai là, immobile à les regarder. Il passera en détournant le regard, comme d'habitude, en tentant d'ignorer ce que je suis, d'ignorer la misère. Et puis d'ignorer que ça pourrait être eux, là, à ma place. J'ai tout perdu un jour comme celui-ci, sans rien demander à personne. Maintenant, il semble que je ne fasse même plus partie de leur monde, que je ne sois même pas leur semblable. Moi qui croyais être leur frère. Je suis seule sur le trottoir et j'ai froid. Mesdames, messieurs, croyez-vous normal que cette situation continue d'exister dans notre pays? Dans notre pays qui dit être une des droits de l'homme? L'alinéa E de l'article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme ne stipule-t-il pas que toute personne a un droit à un niveau de vie suffisant pour assurer son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux, ainsi que pour les services sociaux nécessaires, et qu'elle a droit à la sécurité en cas de chômage, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou des autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. Je suis venue aujourd'hui vous parler des sans-domicile, de ceux qu'on voit tous les jours sans y prêter attention. Pour vous, le terme SDF désigne sûrement le clodon qui fait la manche avec son chien. Le terme SDF est apparu en 1993, et en réalité bien plus large, puisqu'il peut aussi désigner l'adolescent mis à la porte par ses parents ou la femme battue ayant fui le domicile conjugal. Il désigne donc des personnes se trouvant à la rue pour quelques jours, aussi bien que celles se trouvant sans domicile depuis des années. Alors dites-moi pourquoi, si toute personne a droit au logement et un niveau de vie suffisant, des gens se retrouvent à vivre dans la rue. Parfois, les voient assis par terre attendent la main, elles les reconnaissent instantanément. Parfois, elle les croise, comme ça, et nous sommes bien loin de nous douter de qui ils sont réellement. Selon l'INSEE, en 2012, la France comptait 112 000 SDF. 55% d'entre eux sont à l'étranger, et parmi eux, plus de la moitié sont originaires d'Afrique. La population sans domicile est essentiellement jeune et masculine. Cependant, les femmes représentent 38% de cette population, et les enfants sont, eux aussi, de plus en plus nombreux, surtout parmi les SDF nés à l'étranger. Hassan, 17 ans, CAP mécanique, rêve de devenir un grand mécanicien. Ne sait jamais en avance où il va dormir. Il dort là à la rue, à l'hôtel, mais parfois, il préfère errer toute la nuit. Et quand une journaliste lui demande pourquoi, pourquoi il ne se repose pas pour dormir, il répond, je sais pas, j'avais la honte. J'avais la honte. Mais pourquoi Hassan? Ça ne devrait pas plutôt être à nous d'avoir honte, de te laisser errer dans la rue pendant que nous dormons, tranquilles, paisibles, sans la moindre pensée pour ceux qui se trouvent dans ta situation? Oui, parce qu'Hassan n'est pas seul. Dernièrement, il a trouvé une alternative et dort dans les locaux d'un syndicat lycéen où jusqu'à 25 lycéens SDF sont également dans la même situation qu'Hassan. Ils viennent du Mali, du Sénégal ou du Nigeria. Ils sont tous motivés, décidés à se construire un avenir. Pour nous, l'avenir, c'est simple. L'avenir, c'est évident. Mais pour eux, l'avenir, c'est un combat qui devra les mener à leurs rêves. Paul a 45 ans et ça fait 5 ans qu'il est à la rue. Il a eu une adolescence chaotique et délicate, suivie d'un divorce avec lequel commence ses ennuis. Quand sa femme lui demande de partir, Paul enchaîne les petits boulons. Il aménage dans un hôtel de banlieue parisienne afin de ne pas s'éloigner de son fils. Peu à peu, l'argent commence à manquer. Il échoue de camping et ses conditions de vie se détériorent jusqu'au jour où il n'a plus d'endroit où passer la nuit. Il appelle sa famille, mais celle-ci n'y a aucun secours. Puis il contacte ses amis, mais très peu d'entre eux sont prêts à l'héberger. Il ne fait pas part de sa situation à tous, car il se sent humilié. Il passe la première nuit à la rue à marcher, comme Hassan, par honte. Il continue de travailler, mais étant son domicile, il lui est difficile de conserver un emploi. Alors parfois, il n'a pas d'autre choix que de faire la manche. Il se sent rabaissé, humilié et abandonné par tout le monde. Il n'y a que très peu de gens pour s'arrêter lui parler, lui accorder un réconfort moral. Sachez aussi que ces situations existent alors même qu'il y a environ 240 000 logements vacants en France. Alors pourquoi ? Pourquoi des gens continuent de dormir dans la rue, dans des structures d'accueil, dans des squats ? Pourquoi y a-t-il eu 483 morts dans la rue en 2014 ? Bien sûr, il y a des associations pour eux, comme le Secours Populaire, les Petits Frères des Pauvres, la Fondation Abbé Pierre, Don Quichotte et bien d'autres. Mais est-ce suffisant ? Bénéficie-t-elle d'assez de soutien ? J'en doute. Le gouvernement fait-il vraiment tout son possible pour venir en aide aux plus démunis ? J'en doute aussi. Et nous ? On passe devant eux en détournant le regard. Pourtant, cette femme, cet homme, ce vieillard, cet enfant, ce sont eux, mais ça pourrait être moi. Ça pourrait être vous. Mercredi 28 octobre, Mike est mort d'une rage de dents. Il avait 2 enfants. Il a été admis aux soins intensifs en fin septembre dernier. Mais avant cela, on lui a refusé 2 fois l'accès aux urgences, car il n'avait pas de mutuelle et qu'il était soi-disant en état d'ébriété. Pourtant, cela la partie 1 de l'article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, cité précédemment, toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé. 200 personnes ont défilé pour lui rendre hommage, mais aussi pour sortir tous les autres SDF de l'ombre. Mike est mort. Beaucoup passaient devant lui tous les jours. C'était un anonyme, un clochard parmi d'autres. Et maintenant, tout le monde sait qui il était. L'erreur est d'attendre qu'une personne meure pour se soucier d'elle. C'est trop tard pour Mike, peut-être pas pour les autres. Mais cette femme, cet homme, cet enfant, ce vieillard, avez-vous pris une fois le temps d'essayer de comprendre pourquoi il était là, ce qui lui était arrivé ? Bien sûr, il existe des sans-domicile qui sont là par choix, parce qu'ils refusent d'entrer dans un système qui ne leur convient pas, et pour qu'ils se retrouvent à la rue est une façon de se rebeller contre la société. Peut-être ont-ils eu la force que nous n'avons pas eue, ou peut-être n'est-ce que stupidité. Tout est une question de point de vue, une question de ce que vous êtes, vous. Mais la liberté de penser existe, non ? Alors inutile de les mépriser pour leur choix. Cependant, la majorité d'entre eux sont là parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Ils sont trop pauvres, on les a mis à la porte, ils viennent d'arriver en France et ne trouvent pas de logement. Ils ont passé souvent douloureux, au dire de 86% des SDF francophones interrogés par l'INSEE, dont un quart placé en foyer ou en famille d'accueil dans leur enfance. On considère qu'ils sont probablement des incapables, en oubliant qu'un quart d'entre eux travaillent et que certains d'entre eux, d'origine étrangère, ont probablement été victimes de discrimination à l'embauche. On les traite d'alcooliques, en oubliant que ce n'est que cliché, et que quand on n'a plus rien, quand on est à la rue, on n'est pas vraiment à l'abri d'une dépression pour amener à l'alcoolisme, et que surtout quand on est dehors et qu'il fait froid, l'alcool, ça peut être bien utile. Ce sont des clochards, peut-être, selon vous. Mais sans plus que ça, ce sont des humains, ce sont nos frères. C'est la place de qui nous pourrions être et que pourtant, nous nous acharnons à mépriser, à oublier qu'ils sont humains. Peut-être faudrait-il que chacun d'entre nous commence par changer son point de vue sur les sans-abri. Car au fond, derrière chacun de ces visages tristes et sales, il y a un nom, une histoire, une vie. Voilà. Je suis au bas de ta rue, Dehors, sur le trottoir, je suis seule et j'ai froid.
C'était Urgence, édition de ce mois de janvier. Vous avez entendu la première partie des plaidoiries des lycéens pour les droits de l'homme. Le mois prochain, vous entendrez la seconde partie. Et puis Guy Cabrit, le président de la section locale de la Ligue des droits de l'homme, est présent dans ce studio. Peut-être un dernier mot après ces plaidoiries.
Oui, écoutez, ces plaidoiries nous ont touchés. Et au-delà de l'émotion que nous avons ressenti, nous avons vu la force de conviction de ces jeunes, l'esprit combatif qui s'est dégagé de cette soirée. Bref, un vrai moment de bonheur.
Urgence, l'émission mensuelle de la Ligue des droits de l'homme, est diffusée chaque dernier samedi du mois sur CFM Villefranche. Cette émission, vous pouvez la réécouter sur le site cfmradio.fr. Excellente journée à tous. Rendez-vous le mois prochain pour la suite des plaidoiries pour les droits de l'homme. Avec la Ligue des droits de l'homme, défendons au quotidien les droits, les libertés et la solidarité. Et refusons le racisme et l'exclusion.
Il y a des hauts, des bas et des hauts, de drôles de débats et de la démago, des coups de pression, des coups dans le dos, des coups de bluff et des hauts, des hauts. Il y a des hauts, des hauts. Des bourgeois, celle dit des prolos. Y a les petits fils à papa et les cadres sociaux. Y a la France moyenne, de Brest à Cayenne. Y a les sans-papiers, les sans sous les sans sur les sans pitié. Y a les femmes seules et les prisonniers. Y a les infirmières et les gars du chantier. Y a les ouf, les zouaves, les toqués toqués, malvoyants, clairvoyants et les nains du clergé. Et voici que me voilà. Oui, me voici, c'est moi. Chanter, parler, tout ça. Quand tout ça se passe ici bas, où il y a des hauts, des bas et des hauts, de drôles de débats et de la démago, des coups de pression, des coups dans le dos, des coups de bluff et des hauts, des hauts. Il y a des hauts, des hauts, de drôles de débats et de la démago, des coups de pression, des coups dans le dos, des coups de bluff et des hauts, des hauts. Hello, comment ça va? On s'est pas vu depuis longtemps, toi et moi. Le temps passe vite et il t'a usé. Fier comme un paquebot, digne comme un voilier. Y'a la chance, la loose et la weed qui redonne l'espoir quand la vie abîme. Il paraît qu'on ne vit qu'une fois. J'ignore tellement de choses, mais pas celle-là. Y'a pas de sous-métier, y'en a quand même de très mal payés. L'insécurité est une grande vedette de la télé. Y'a des tonnes de types qu'on y en a fait en prison. Plein d'escrocs cravatés qui nous prennent pour des cons. Je me suis perdu dans la foule, j'ai réfugié dans le son. Ma chenouf, ma cam, ma plus c'est l'addiction. Et voici que me voilà. Où me voici, c'est moi que v'là. Je peux chanter, parler, tout ça. Quand tout ça se passe ici bas, où y'a